Las conferencias de Radio Languedoc. Per hoy, une conférence de Christophe Granier, président de la Fédération française de jeux de balle au tambourin, et Jean-Guillaume Rouquette, escrivain occitan montpelliérenc, afougat des tambourines, qui fait une retraite d'au sport tambourin et qui présente toute sa dynamique actuelle dans le monde, notamment dans les régions historiques en France et en Italie. À quelle conférence organisée par le Cercle Occitan de Montpellier, c'est des bannettes à la Gazette Café à Montpellier, le 24 d'avril des 12 000 d'Etzanans.
Donc bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. On n'a pas terminé de mettre le décor en place, donc on termine un petit peu. Voilà, la Croix Occitane. Pour cette soirée un petit peu spéciale, en tout cas je crois pour le Gazette Café, c'est la première fois qu'il y a une conférence ou en tout cas une présentation sur le sport tambourin. Alors sport tambourin parce que récemment, depuis les années 90, le terme sport tambourin s'est plus ou moins imposé par rapport à jeu de balle au tambourin, qui est encore un terme usité, c'est pas totalement désuet. Certains médias nous ont demandé de raccourcir un petit peu le nom, etc. Donc le jeu de balle au tambourin est devenu le sport tambourin, en tout cas dans la communication auprès des médias. Ce soir, on va vous présenter un petit peu ce qu'est ce sport. Comme, je parle sous le contrôle de M. Rouquette, comme Max Rouquette donc, le disait, c'était un jeu qui est devenu un sport, mais ça, on y reviendra après. En tout cas, ce soir, c'est grâce au Cercle Occitan, donc le président, M. Vivancos, autant, excusez-moi. Et j'avais demandé de me confirmer son nom pour ne pas l'écorcher, mais j'ai quand même réussi à l'écorcher. Donc M. Vivancos, ici présent, nous a permis de pouvoir faire cette conférence sur le tambourin au Gazette Café. Donc il y aura bien entendu des textes en occitan. Ceux qui ne le parleraient pas ou ne le comprendraient pas, ne vous inquiétez pas. Il y aura aussi la traduction en français qui suivra. Donc ne vous inquiétez pas. Et nous avons bien entendu la présence de Jean-Guillaume Rouquette, donc fils de M. Max Rouquette, qui nous parlera bien entendu de la relation étroite entre la vie de Max Rouquette et l'histoire du jeu de balle au tambourin, et aussi bien entendu la manière dont Max Rouquette a fait de ce jeu justement un sport qui continue à s'inscrire dans la modernité. Pour ceux qui n'auraient pas vu ce qu'est le tambourin, surtout dans sa version actuelle, je vais vous présenter deux vidéos assez rapides, de 1 minute chacune à peu près, qui vont permettre de savoir à quoi ça ressemble. Donc c'est souvent la question qui plane. Donc la question qui plane souvent autour des conversations quand on parle de jeu de balle au tambourin, de sport traditionnel, etc. Les gens se demandent ce que c'est, comment ça se pratique, etc. Donc c'est un sport qui se pratique sur un grand terrain, et on verra qu'il y a d'autres versions aussi, un grand terrain de 80 mètres de long par 18 de large. Les dimensions ont évolué au fil des années, au fil des temps, etc. Max Rouquette a été l'une des personnes qui a fait évoluer ce sport, avec des équipes de 5 contre 5. Donc 5 contre 5, et l'objectif clairement est d'envoyer la balle dans le camp adverse et qu'elle ne revienne pas. On retrouve bien entendu cette pratique au niveau des sports tels que le tennis, etc. Pourquoi ? Parce que c'est exactement la même origine que le tennis et d'autres sports de ce type-là. Donc on retrouve bien entendu cette notion de 15, 30, 45, on dit 45, on ne dit pas 40, 15, 30, 45, et jeu dans le cadre d'une rencontre de tambourin. Au fil des ans, le tambourin a évolué. Alors le matériel a évolué et la pratique aussi a évolué. Des pratiques, donc bien entendu, destinées aux enfants. La dimension des terrains est différente pour les différentes catégories d'âge. Et ensuite, il y a eu des versions qui se sont déplacées en salle. C'était un sport originellement qui se jouait en été, donc de cette période-ci, donc d'avril à septembre, durant la période d'été. Et en hiver, les joueurs se retrouvaient un petit peu dépourvus quand la bise était venue. Et donc, ils se sont mis à pratiquer dans les gymnases. Donc, les règles ont été adaptées pour pouvoir pratiquer en gymnase. La balle est différente, les règles sont légèrement différentes, et ce n'est plus des équipes de 5 contre 5, mais 3 contre 3. Et la dernière version, toujours pareil, l'objectif n'est pas de pervertir la pratique, c'est de lui donner d'autres perspectives et de la faire évoluer. La dernière version en date, qui apparaît à la fin des années 2010, plutôt au début des années 2010, c'est une version sur la plage, ce qui permet aux tambourins d'évoluer au milieu des estivants, au mois de juillet, avec un championnat donc, de tambourins sur la plage, et bien entendu, d'être au contact des estivants et de leur faire découvrir cette pratique de tambourin. Donc voilà, je vais vous laisser cette vidéo s'est terminée, et je vais passer la parole donc, à M. Vivancos, qui va pouvoir nous parler du tambourin, donc d'un point de vue historique. Là, on était, voilà, l'idée c'était de se dire que c'est un sport qui est encore vivant, qui vit, mais qui a certainement un présent et de toute évidence un avenir, mais surtout qui a aussi un passé, et on est là pour en parler.
Allez, bonsoir à toutes, amis. Per aquella conferència sur el tambourin d'Azière, el tambourin de Yuei. Bonsoir à tous, chers amis, pour cette conférence sur le tambourin d'hier jusqu'au tambourin d'aujourd'hui. Je vous présente Jean-Guillain Rouquette, fils de Max Rouquette, qui va vous faire un petit peu l'historique de ce qu'a fait Max Rouquette pour faire évoluer ce sport. Alors c'est une lecture. Hein.
Bonjour à tous. Le tambourin, d'abord en occitan, le tambourin c'est le tambournette. Hein, c'est pas parce que le tambouri c'est le tambourin, c'est le tambourin musique. Donc c'est différent, les tambourinaires et les jugaires et les tambournettes, est-ce qu'ils comptent des complètement différents. Oui. Alors Max Rouquette et le jeu de balle au tambourin. Ce fut une des quatre vies que se reconnaissait Max Rouquette, les trois autres étant sa vie d'écrivain, sa vie de médecin et sa vie de militant occitaniste. Un engagement total pour développer ce sport, un des marqueurs d'identité populaire du Bas-Languedoc, comme les joutes ou la bouvine. Son copain Armand Lassalle l'entraîna à jouer au tambourin à Argeliès avec des enfants de son âge en face de la maison de famille sur le plan, un terrain de terre battue. Robert Souchon l'avait vu jouer plus tard à Gignac et à Montpellier et gardait le souvenir d'un batteur leste, pas vraiment athlétique, mais qui avait la vista. Il savait placer la balle là où l'adversaire ne l'attendait pas, dans les trous où il ne pouvait venir la chercher. Il en parlait comme d'un gagneur. Max Rouquette avait la passion du tambourin, il l'avait partagé avec le peuple des villages qui s'amassaient autour des terrains dans les villages les dimanches d'été, ou sur la place du bord de la route à Pézenas, la place du 14 juillet à Pézenas, qui la route ancienne, hein, évidemment maintenant il y a l'autoroute qui passe, c'est fini, ou aux Arceaux à Montpellier, aujourd'hui place Max Rouquette, place transformée depuis signe des temps en parking. Il a décrit plus d'une fois le battement de cœur que lui donnait le son de la balle frappant le tambourin en son centre. Il donne à ce son un rôle important dans le ressenti du jeu, pour les joueurs comme pour le public. Ce son s'est assourdi à cause du progrès technique, avec des balles plus petites et des peaux synthétiques pour les tambourins, qui ont remplacé les vieilles peaux de chèvre ou de cheval. Il a raconté comment, en 1954, dans un grand parc de Florence en Italie, il reconnut de loin le son de la balle sur un tambourin. Il se guida à l'oreille et trouva en effet deux équipes italiennes qui jouaient. C'est là que commencèrent les rencontres avec la Fédérazione Italiana Tamburello, qui avait à cette époque plus de 30 000 licenciés sur toute la péninsule et même en Sicile. Le jeu italien que découvrait Max Rouquette était beaucoup plus rapide et dynamique que le jeu traditionnel de chasse, les chasses en Languedoc, les chasses, ça veut dire quelque chose qui est couché, c'était des marques pour... C'était un jeu assez compliqué à comprendre, le jeu de chasse. Et c'est surtout un jeu qui ralentissait le mouvement. Le jeu de chasse qui régnait alors en Languedoc. Il fera évoluer la tradition en faisant adopter le jeu italien, non sans soulever des critiques de la part des plus traditionalistes. Par contre, face aux Italiens qui voulaient imposer leur battoir ovale, la mandoline, Il défendra toujours le petit battoir languedocien à long manche de Mikou Coulier, qui ne se trouve nulle part dans l'évolution des jeux de longue pomme, et où il voyait la preuve que ce sport n'avait pas été importé d'Italie au XIXe siècle, mais était vraiment autochtone. Et le geste magnifique du batteur, tout autant que la rapidité et la précision que donnait le battoir pour placer des balles, lui semblait justifier son maintien. Il avait connu des batteurs légendaires, vous en verrez en photo quelques-uns, qui étaient alors aussi renommés que maintenant les grands joueurs de football. Il a toujours défendu les potentialités de ses battoirs pour l'avenir de ce sport. L'autre chose qu'il refusait d'abandonner, c'était la langue native du tambourin, la langue d'oc. Il pensait qu'elle faisait corps avec le jeu et que l'avenir du tambourin ne pouvait être séparé de celui de l'occitan. Il pensait que le combat pour sortir de la marginalisation était commun, même si certains responsables de tambourin ne le suivaient pas sur ce point. Max Rouquette a consacré 3 livres au tambourin. Le premier, en 1948, porte l'élan du renouveau de la Fédération française qu'il avait contribué à créer avant la guerre, en 1938, à une époque où le tambourin avait failli disparaître. La première fédération de 1923 s'était disloquée, minée par les divisions. Dans le livre, il fait l'historique des jeux de paume, dont les racines remontent peut-être à la haute antiquité, puisque c'était, dit-on, le jeu de Nausicaa dans l'Odyssée d'Homère. Il décrit des propositions d'organisation et de communication, il parle de propagande selon le langage de l'époque, de la nouvelle fédération. Il donne les règles du jeu de chasse avec un lexique occitan, la langue d'origine du tambourin en France, circonscrit alors au Bas-Languedoc. C'est un résumé détaillé des objectifs avec des explications pour les débutants. Le livre du tambourin en 1986 fait le bilan des presque 50 ans de la fédération, de 32 ans d'abandon du jeu de chasse en 1954. Il commence par un exposé large et approfondi sur l'histoire des jeux de paume, la plus grosse partie du livre étant surtout consacrée à la technique et à la tactique du jeu avec des photos, des schémas et des dessins explicatifs clair et précis. L'objectif technique est affirmé, aider le joueur débutant à ne pas se contenter d'improvisation, de réflexes spontanés et réfléchis, car, dit-il, on prend aussi facilement les bons réflexes que les mauvais. Améliorer la technique du jeu dans les séances d'entraînement pour échapper à l'amateurisme et s'élever au niveau du championnat semi-professionnel des Italiens et finalement former des champions véritables et mettre le tambourin au niveau des autres sports. Le troisième livre en 1996, vous le trouverez sur la table qui est au fond là-bas. Le troisième livre en 1996, il avait quitté depuis longtemps ses responsabilités de dirigeant de la Fédération française et était président d'honneur de la Fédération internationale créée en 1988, est un livre de photos remarquables sur le tambourin de Charles Camborock. Max Rouquette a écrit la préface où il fait allusion à son expérience de joueur et de dirigeant, à sa conception du jeu et de l'avenir de ce sport. Au temps où Max Rouquette jouait, c'était le sport traditionnel pour beaucoup d'ouvriers agricoles ou d'ateliers qui attirait des foules énormes. Vous verrez les photos de Pézenas et de Ozarceau, il y avait vraiment beaucoup de monde qui venait. Depuis, la transformation sociale dans les villes et villages a forcément modifié le recrutement. À la suite des Italiens, des équipes féminines sont apparues et des animateurs de la Fédération française de tambourin travaillent dans les écoles à la découverte du tambourin par les jeunes. Et le tambourin en salle a permis la pratique de ce sport pendant toute l'année. Respect critique d'une tradition, souplesse d'esprit que commandent les évolutions caractérise son action sur le tambourin. Sur la fin de sa vie, Max Rouquette a voulu sceller encore une fois l'accord entre tambourin et langue d'oc. Dans son livre bilingue « Membrance de la vie ordinaire, souvenir de la vie ordinaire », se trouve une nouvelle « La rose et les espinos », la rose et les épines, sur les affrontements rituels des communautés villageoises autour du tambourin, où il fait montre de sa connaissance fine du jeu. Il donne ici la substantifique moelle de son expérience de joueur, avec les qualités physiques et techniques nécessaires. Il met en scène les plaies de toute action collective qu'il a appris dans son expérience de dirigeant, l'esprit de clocher, les questions de personnes, les jalousies et les rancœurs qui virent au ressentiment et parfois à la haine et qui font que tout se défait. Le maître mot de son action en 1938, quand il sauva le tambourin de la désintégration, était « Union fédérale ». Massoukette pensait que le tambourin devait avoir sa place parmi les grands sports internationaux. Il le décrit ainsi « Sport individuel pratiqué en équipe, jeu d'intelligence tout autant que de force. Il faut pour ce sport de l'agilité, de la vigueur, de la souplesse. Il aiguise la vue, le jugement et le sang-froid. » Avec Robert Souchon, ils rencontrèrent à Rome, au stade des Marmi, Nelson Payou, le président du Comité national olympique et sportif français. Grâce à lui, le tambourin fut reconnu en 1980 comme fédération nationale sportive. Dans un de ses discours en 1988, il disait « Votre discipline, Nelson Payou disait, votre discipline plus que toute autre s'inscrit dans la démarche olympique. Vous avez associé à la fois le physique et le culturel. Il y a cette résurgence de tout un passé de culture occitane et en même temps il y a du sport et du vrai sport. À une époque où l'on a de plus en plus d'inquiétude pour la survivance du vrai sport face au commerce, aux médias et à un professionnalisme exacerbé, le tambourin est une des rares disciplines sportives à donner le bon exemple. Ce fut dans cet esprit que Max Rouquette œuvra pour le tambourin tout au long de sa vie.
Juste pour éclairer deux choses donc, qui ont été dites, l'une étant l'aspect pratique féminine. Souvent, les sports traditionnels sont ramenés à un certain traditionalisme, ce qui n'est pas du tout le cas pour le tambourin, depuis les années 70, et donc bien avant que la féminisation du sport soit quelque chose qui soit à la mode, le tambourin n'a pas hésité à intégrer des équipes féminines et des joueuses féminines dans ses équipes masculines aussi. Ce qui surprend souvent les gens qui viennent assister à un match de tambourin, c'est qu'il y a des équipes mixtes. Et des fois, on entend la remarque en disant « Mais c'est un match officiel ?» Ben oui, pourquoi ? Ben parce que c'est une équipe avec des garçons et des filles. Et comme c'est un sport qui est avant tout, alors certes physique, mais avant tout basé sur l'adresse, il n'est pas rare d'avoir des équipes mixtes dans des compétitions qui comptent officiellement. Ce n'est pas juste pour amuser la galerie. Donc ça, c'est un élément important à souligner au niveau du tambourin. Et beaucoup de sports traditionnels sont encore loin d'avoir cette optique par rapport aux joueuses et aux pratiquantes féminines. Et l'autre aspect, c'est pour éclairer un petit peu la problématique du sport, enfin du jeu qu'on appelait le jeu de chasse. Le jeu de chasse était issu donc des jeux de longue pomme et du jeu de longue pomme, et c'était des règles issues d'une époque, le Moyen-Âge et la Renaissance, où faire du sport ou jouer n'était pas synonyme de se dépenser physiquement. Les gens se dépensaient physiquement en ayant des activités quotidiennes. On marchait partout, on devait avoir des activités physiques par définition. Et donc à cette époque-là, au Moyen-Âge, vous aviez des gens qui jouaient. Et donc le jeu de longue pomme ressemblait plus à une partie d'échecs à taille humaine. Pour vous donner une petite référence, alors pas du tout dans le même contexte, mais dans le même esprit, il y a encore deux sports modernes qui existent comme ça. L'un est le cricket, chez nos amis anglais, et l'autre est le baseball. Et vous voyez bien que c'est des sports dans lesquels il y a une équipe qui joue et qui marque des points. Et en même temps, l'autre équipe essaie de ralentir la progression des points de l'équipe adverse. Et ensuite, on change de camp et la première équipe devient l'équipe qui doit défendre son score obtenu. Et donc, pour faire un petit parallèle avec ce qu'était le jeu de balle au tambourin, donc les jeux de pommes à l'époque, c'était le même principe. C'est-à-dire que vous aviez une équipe qui marquait des points à un moment et l'autre équipe qui essayait de rattraper ce score dans un deuxième temps. Donc bien entendu, le sport tambourin est devenu quelque chose de vraiment différent grâce à Max Rouquette, où c'est vraiment chaque équipe, lors de chaque échange, est là pour gagner le 15 et bien entendu gagner le jeu. En même temps que la vidéo passe sur une exposition consacrée au tambourin, je vais repasser donc le micro à monsieur Vivankos, qui va nous faire la lecture d'un texte de Max Rouquette qui fait le portrait d'un joueur. Donc vous inquiétez pas, ceux qui ne sont pas occitanophones, on va dire, vous aurez la traduction en français à la suite.
Dans la nouvelle La rose et las espinas, ma membranza de la vida ordinario, dont un extrait est lu par Jean-Marie Petit, le personnage principal, Basili, est un joueur de tambourin qui trouve dans le jeu un épanouissement personnel en accord avec l'esprit d'un village dont il devient le héros. Basile Saubagnac est un Belgugaire. Prime, l'Este, amarbi comme l'argent biou, un bignol d'agace, per beire passe, caubiau da bataire, de traire la palma davant le cop. Un tanario pica, a drecha ou a gaucha, ou se serio bassa ou a landada. Bombissin comme un cabrit, se trasio sur le balou, et la nava pica plat d'avant, d'un tario puscut l'espera, sauf que suspregno los adversaris, pas encara tornat en place. Avio la vista, comme se dit en co del toreros, et savio tabé tout picant sa pauma, ten el lluol sur le trauc, l'espandit mai larg entre jugaire per y emmargal son cop. Le tambournet n'era bauch. A co l'avio presleu, a 5 ou 6 ans, sur un canto de place, era une escachette à faire des palmes en des tambournets pichot, fach per eres, tibat de pelles de cabra sur un cercle de castanier, clavada de teste de cuir. A déjà l'encantava le tinda del cotz. Fuguet leu a destria le bruche d'une paume presa au mitant, un cal, d'une autre mau centrat, canter a pas sus la rescle. Aquel cotz de réussido, clar, linde, liera une musique de bonheur. Basile Saubagnac était un grand joueur, svelte, agile, mobile comme le vif argent, avec un regard de pie, capable de voir au seul geste du batteur dans la mise en jeu, à sa seule façon de frapper la balle, où elle irait tomber à droite ou à gauche, en volée basse ou haute. Bondissant comme un chevreau, il se jetait sur la balle et allait la frapper bien à l'avant, d'où il aurait pu l'attendre, ce qui surprenait ainsi les adversaires, pas encore revenus à leur juste place. Il avait la vista, comme l'on dit chez les toreros. Et il savait ainsi, tout en frappant la balle, garder l'œil sur le trou, l'espace le plus large entre deux joueurs, pour y diriger sa frappe. Du jeu de balle au tambourin, il était fou. Cela l'avait pris très tôt, à 5 ou 6 ans, sur un coin de place. Ils étaient une poignée à faire des balles avec de petits tambourins confectionnés pour eux, tendus de peau de chèvre sur un cercle de châtaignier, fixé par des clous de cuivre. Déjà l'enchantait le bruit des coups. Il fut rapidement apte à distinguer celui d'une balle reprise bien au centre du tambourin, là où il faut, d'une autre mal centrée, quand ce n'était pas sur le cadre. Ses coups réussis, clairs, limpides, lui étaient une musique de bonheur.
Merci. Las conferencias de Radio Languedoc.
Merci. Donc Max, comme il a été dit, Max Rouquette a longtemps été le plus grand fan du tambourin, du jeu de balle au tambourin, et surtout a été l'un des acteurs de ce jeu, en étant à la fois, pendant une longue période, président de la Fédération française de jeux de balle au tambourin, et ensuite, bien entendu, en étant quelqu'un qui, au fil des années, de par sa capacité à pouvoir à être écrivain, à pouvoir écrire, rédiger, etc., a donné des lettres de noblesse au tambourin, ce qui n'est pas le cas de tous les sports. Le tambourin a cet avantage culturel, c'est d'avoir aussi une existence littéraire au travers des écrits de Max Rouquette. Peut-être que Jean-Guillaume pourrait donner plus d'informations là-dessus, sur ce rapport littéraire que Max Rouquette avait avec ce sport. Voilà, une vision à la fois sportive, mais aussi une vision à la fois très, culturelle, très cultivée de ce sport-là.
Peut-être que le fait d'écrire et de chercher les mots, de jouer avec les mots, et c'est le travail de l'écrivain. C'est peut-être pour lui, c'était pas si différent au fait de placer la balle au jeu de tambourin. Et il parle à un endroit de troubadour Rimbaud d'Orange. Il dit Jugab del Mutz comme des palmes. Je me rappelle pas plus, je regarde des mots comme des palmes et des rebonds. Enfin, il compare la façon dont le troubadour Rimbaud d'Orange composait ses chansons avec le jeu de paume, c'est-à-dire le jeu de tambourin. Et je pense que c'est. Il a vécu intensément le sport. Le jeu du tambourin et c'est, pour lui c'était une des façons de vivre autant que d'écrire. Je pense que c'est lié, quoi.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur les différentes vidéos qui ont été diffusées, le tambourin est un sport, alors vous l'avez entendu au travers des récits et des textes lus de Max Roquette, un sport qui a une histoire, qui a un passé, mais c'est un sport aussi qui est très récent et qui récemment à retrouver un petit peu des lettres de noblesse en étant plus présent dans les médias, en étant repéré par certains grands médias nationaux. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, les médias locaux s'intéressent à une activité locale lorsqu'elle est mise en avant par les médias internationaux, enfin nationaux en tout cas. Et donc, on a eu la chance d'avoir, entre autres, Télématin, on a eu la chance d'avoir TF1 et son fameux 13h de Jean-Pierre Pernaut. On peut lui reprocher certaines choses, mais le jour où il y a eu du tambourin, on s'est dit, ah, c'est quand même bien le trésor de Jean-Pierre Pernaut. Et en tout cas, tout ça a permis à ce que le tambourin, vous devez le savoir, réapparaisse, y compris dans les journaux locaux, et réapparaisse aussi à travers l'implication de toute une série de personnes. Alors bien entendu, le tambourin est en train de tendre la main vers tout ce qui est la culture occitane. Il faut le dire aussi, le tambourin, pendant un certain temps, s'est un peu éloigné de cette activité-là, en voulant être à tout prix un sport. Le tambourin s'est aussi éloigné de la partie traditionnelle. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un rapprochement de nouveau à créer entre les deux activités. Ensuite, le tambourin aussi a retrouvé un petit peu ses lettres de noblesse et sa modernité au travers de personnes qui ont bien voulu nous faire des vidéos. Donc on a eu des intervenants, des étudiants en audiovisuel, excusez-moi, qui ont produit des différentes vidéos, etc., qui nous ont permis d'exister sur les médias sociaux, YouTube, etc. Et on a aussi, et je le salue au passage, parce qu'il est présent aujourd'hui, monsieur Martin Rabot, qui est venu faire des photos très régulièrement aux abords des terrains, etc. Et si vous lisez les journaux locaux, très souvent, le Midi Libre en particulier, dans la page ou les articles consacrés au tambourin, on retrouve les photos de monsieur Martin Rabot, qui est devenu un véritable passionné, j'ose le dire, de tambourin. On a aussi eu un rapprochement avec la radio en occitan, bien entendu, la radio Languedoc. Donc, monsieur Bruno Cessillon, qui est présent ce soir avec nous, qui est le directeur, si j'ai bonne... Voilà, le directeur. Directeur donc de la programmation. Et qui a ouvert aussi l'antenne au tambourin avec, et je vais demander qu'il se rapproche de nous, la présence de Philippe Carcassès, qui est un petit peu monsieur tambourin, je dirais, j'oserais dire, sur Radio Languedoc. Donc qui a redécouvert ou découvert ce sport il y a quelques années. Alors, il le connaissait un petit peu, mais du point de vue historique. Et Philippe est venu se réintéresser, se réapproprier ce sport-là et a régulièrement mis en place des chroniques, donc la fameuse émission Ad Hoc, pour ceux qui suivent le tambourin sur Radio Languedoc. Et bien entendu, cette émission a permis de rendre compte de l'actualité du tambourin. Et donc, Philippe, si tu viens nous rejoindre pour faire un petit peu part de la façon dont tu as découvert le tambourin et bien entendu de la façon aussi dont tu en traites de façon, je dirais, actuelle. Parce que, bien entendu, ton travail se fait sur l'aspect, je dirais, résultat des compétitions, compétitions à venir, etc. Si tu veux t'asseoir, c'est avec plaisir. La chaise était prévue pour toi. Et je crois que même Philippe pourra nous faire au moins une partie en occitan, bien entendu, parce qu'il fait son émission en occitan.
Oui, bonjour. Oui, je connaissais bien le tambourin quand même parce que j'ai une histoire familiale avec ça. Ma mère est dans le village à Gabian, à côté de Pézenas. Elle me racontait toujours qu'elle avait pris la balle, l'ancienne balle, dans la tête au cours d'un échange qu'il avait laissé. Voilà. Donc le tambourin, ça m'a toujours fasciné. Alors bien sûr, j'ai eu des périodes où je n'ai plus vu. Mais après, quand je l'ai redécouvert, bien sûr... ça m'a fait plaisir. Et en plus, je me suis aperçu que les médias régionaux n'en parlaient pas. Ce que je trouve personnellement scandaleux, mais on n'est pas à un scandale près dans l'ignorance des cultures premières, on va dire. On va parler comme les Indiens d'Amérique, hein. Dans l'ignorance des cultures premières, on est en France à un niveau que moi, je juge scandaleux. Voilà, c'est tout. Donc j'avais eu besoin de dire que cette ignorance devait être réparée. Donc je me suis dit, sur Radio Languedoc, ça manquait. Donc il fallait faire, à mon avis, cette chronique ad hoc pour annoncer les résultats. Je suis content de voir qu'il y a des gens qui la suivent. Voilà. Pourquoi ad hoc ? Parce que avant de commencer les parties, les gens, ils s'entraînent, ils échangent quelques balles. Ça se faisait avant, comme ça se fait maintenant. Maintenant, on arrête l'entraînement, les échanges par un coup sifflé, et après la partie commence. Avant, c'était un des deux qui criait ad hoc, ce qui veut dire mot à mot, à jeu, en jeu, en jeu. Ce qui veut dire donc qu'on n'avait pas de mégaphone, et on criait ad hoc, la partie commençait. On espère que cette formule reviendra. Donc, j'ai intitulé cette émission ad hoc. Ou, cada semana, Monsieur Garnier me manda las nouvelles de Tambournette, que vos revira et publica en occitan. Donc il m'envoie les nouvelles, chaque nouvelle, et chaque semaine, je les adapte, je les traduis, et je les mets sur l'antenne, que j'envoie à Radio Languedoc, M. Cécilion, son équipe, et beaucoup de plaisir à faire ça. Je me suis rapproché aussi du club de tambourin de Vieux-le-Fort, où je suis lié d'amitié avec M. Kézergue. Et voilà, et j'apprécie beaucoup, honnêtement, ce sport, d'autant plus que je le considère non corrompu. Excusez-moi de dire ça. Non corrompu, c'est-à-dire, bon, il n'y a pas les scandales financiers qu'on voit au football, par exemple. Voilà. C'est deux raisons pour que ça me plaise. Et Maïdako, il y a d'origine occitane. Plus de ça, d'origine occitane. Voilà. Donc c'est bien de reprendre, bien sûr, les habitudes, les ancrages. Et comme étant, je suis originaire, enfin, j'ai habité longtemps à Sète, les joutes sont en train de s'ouvrir aux femmes. Hein. Ça fait un petit scandale, mais c'est en train de se faire.
Merci Philippe. Alors Philippe qui est un peu modeste, parce que certes, les résultats lui sont communiqués chaque semaine, etc. Et c'est une partie de la chronique à Joc. Mais, alors, je ne parlerai pas occitan devant vous parce que je le parle très mal. Je le comprends assez pour avoir vu l'évolution qu'a apporté Philippe lors de cette émission. Dans les premières émissions, clairement, il ne faisait que traduire ce qu'on lui a envoyé comme information, etc. Et comme il vous l'a dit, il se rapprochait de certains clubs, en particulier à Vieux-le-Fort, ce qui lui a permis, bien entendu, de s'intéresser à cette pratique-là. Et au début, il a commencé à mettre un petit peu son grain de sel, dans le bon sens du terme, sur les commentaires concernant les matchs, etc., à rendre compte aussi de certaines rencontres, et bien entendu, à venir enrober un petit peu tout ça, et c'est logique, avec des explications sur le fonctionnement du jeu, sur certains éléments de règles, parce que bien entendu, tout le monde ne connaît pas encore les règles, même si Philippe, chaque semaine, rappelle des points de règles, des éléments de règles. Et donc, bien entendu, il a étoffé cette émission-là, donc il est allé, contrairement à ce qu'il dit, il est allé au-delà de simplement traduire et juste donner les résultats à l'antenne. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Alors, sauf si quelqu'un veut rajouter un mot, on va en rajouter de toute manière. On fait un petit peu le tour. Sur la partie, comme on le disait, la partie présente du tambourin, on a reparlé du passé, en particulier de Max Rouquette, grâce à qui certainement le tambourin existe encore, sinon il aurait certainement subi la loi, je dirais, la loi de la masse, etc. Il se serait complètement dissolu dans les différentes pratiques traditionnelles, etc., au point de ne devenir qu'un sport de musée, ce qui n'est pas, comme vous avez pu le voir sur les vidéos. Et bien sûr, le présent, avec entre autres Philippe, et la pratique actuelle, et puis bien entendu, les médias qui s'intéressent régulièrement à cette pratique. Quelque chose à rajouter, monsieur Vivankos?
Oui, si vous voulez, j'ai un petit texte de Max, toujours, qui, Max Rouquette, évoque non seulement la fierté intérieure du champion au sommet de sa forme, mais l'émotion et l'enthousiasme du public qui l'accompagne. Et Cadun, de l'une de las règles, s'identificava a son campiu.
Espera Mel, Patrice Mel, et c'est un fioco de temps qui ne prennent le parti, et mai si l'oudrech est pas pérel. Et souvent, bolo los vituperis, et mai tapla los codes de pugne. Mais t'avais per une réponse seca ou d'au fond, quelque paume bien enregada et que clava le joc se descadena l'estrambord. Et la gauge ritz sur les caras et tinda dans les paraules. Et chacun, au bord des lignes de faute, s'identifie à son champion, espère avec lui, souffre avec lui et s'enflamme tant qu'il en épouse le parti, même quand le droit n'est pas pour lui. Souvent, ainsi, volent les imprécations et aussi bien les coups de poing. Mais pourtant, pour une riposte impérieuse ou du fond, quelques balles bien dirigées et qui clôt le jeu, se déchaîne l'enthousiasme. Et le bonheur rit sur tous les visages et retentit dans les paroles.
Donc ça va être peut-être à vous de poser des questions pour éclaircir éventuellement des éléments que l'on n'aurait pas assez approfondis ou des questions particulières sur certaines pratiques ou certaines choses que vous avez pu voir éventuellement au bord des terrains ou ailleurs, ou des histoires qu'on vous a racontées sur le tambourin. C'est le moment de vérifier si elles sont vraies ou si vous avez cru comprendre quelque chose. Alors, dans l'Hérault, il y en a 34, avec une évolution entre 35 et 33, ça dépend un petit peu des saisons, avec une majorité de clubs qui jouent dans la version traditionnelle extérieure, et une petite minorité, mais croissante, de clubs qui jouent uniquement en salle. Voilà. Donc c'est la version hivernale, la version en salle, a permis à la création de certains clubs. Je pense en particulier à Paulhan, où il n'y a pas de terrain de tambourin à Paulhan. Donc Paulhan, on devrait dire d'ailleurs, Paulhan a créé un club de tambourin uniquement pour jouer à la pratique en salle, qui est la version moderne, je dirais, du tambourin. Pas moderne pour être moderne, la version qui permet de jouer durant la saison hivernale. Ça, c'est pour le département de l'Hérault. Ensuite, en France, il y a une dizaine d'autres clubs qui sont répartis dans l'Aude. Vous avez Narbonne qui joue au tambourin. Dans le Gard, vous avez Aiguevive. Vous avez Galargues le Montueux qui joue au tambourin. Dans les Bouches-du-Rhône, Gignac-Lanert, Les Pennes-Mirabeau, j'en oublie un. Il y a Marseille, il y a un club à Marseille, la SPTT Marseille. Et ensuite, de façon assez étonnante, vous avez un club du côté de la Corrèze, à Monceau-sur-Dordogne. Et toute une série de clubs en Picardie, enfin ce qui était la Picardie, qui est devenue les Hauts-de-France maintenant. Donc dans les Hauts-de-France, vous avez Beauvais, La Chapelle-aux-Pots, qui est un village autour dans l'Oise. Vous avez quatre clubs dans l'Oise et vous en avez trois de plus dans le département du Nord, donc avec un N majuscule, du côté de Beuvrage, qui est aux alentours de Valenciennes. Et donc dans cette partie-là, pourquoi ça s'est développé ? Alors ce sont des gens qui ont découvert le tambourin dans l'Hérault et qui l'ont exporté, ou plutôt importé dans le département du Nord. Mais il faut savoir que ces départements-là, les Hauts-de-France, la Picardie, ont des traditions fortes de jeux de pommes, jeux de balles au poing, jeux de balles à la main, toute une série de sports et de jeux qui se sont développés dans la mouvance donc des jeux de pommes. Donc ce qui donne un profil assez atypique du tambourin dans l'Hérault et en France. Comme je le disais, une trentaine de clubs un peu plus dans l'Hérault et une dizaine de clubs répartis dans quelques départements en France. Et pour aller un peu plus loin, l'Italie, qui est l'autre pays du tambourin, l'Italie, par contre, a une pratique qui s'étend sur deux régions, dans le Trentino, donc le nord de l'Italie, avec beaucoup plus de clubs, mais c'est resté aussi une pratique de village. Voilà. Vous n'avez pas de ville importante qui pratique le tambourin, même si vous avez dans le nord de l'Italie, vous avez des villes de taille importante. Il faut aller dans des villes, des petits villages alentour de ces villes pour retrouver du tambourin. Alors, le club titré, à la longue, pour l'instant, c'était Gignac. Mais Gignac, depuis quelques années, depuis presque une décennie, a eu beaucoup plus de difficultés. Il a certainement été rattrapé, alors je ne connais pas le chiffre exact, il a été rattrapé par Cazuldero, qui est un village du côté de pas très loin de Pézenas, et aussi Vendémian, qui est actuellement, on va dire, la Mecque du tambourin. Si vous avez l'occasion d'aller voir des matchs à Vendémian, je vous le conseille, parce que le public est là. l'ambiance est là. Des fois, il y a un petit peu trop d'ambiance. Pour être arbitre officiel aussi, pour arbitrer des matchs là-bas, il faut savoir prendre les décisions et s'y tenir, parce que c'est pas le genre de lieu où il faut être hésitant quand on est arbitre. Voilà. En tout cas, Vendémiaire est un des villages qui a le plus de titres récemment. Et ensuite, il faut faire attention à ça aussi. Vous avez des clubs qui se sont construits plutôt un palmarès au niveau des féminines. Voilà. Alors là, je pense à Poussan, par exemple. Le village de Poussan a un palmarès quasiment uniquement féminin. Poussan a été championne de France une fois chez les messieurs. Et par contre, depuis plusieurs décennies, désormais, Poussan est championne de France assez régulièrement, avec Notre-Dame-de-Londres aussi. Notre-Dame-de-Londres a des bons résultats, en particulier en Coupe de France. Mais par contre, Notre-Dame-de-Londres a surtout des résultats, alors en championnat de France et en championnat d'Europe, avec les féminines. Notre-Dame est championne d'Europe en titre, donc Notre-Dame-de-Londres, chez les dames. Notre-Dame, c'est le troisième titre qu'elles ont décroché en une décennie. Donc c'est un beau palmarès. Et pour terminer sur cet aspect de palmarès, la salle a aussi amené toute une série de nouveaux champions, avec entre autres Florent Sac qui a pendant longtemps été le champion français du tambourin en salle, qui a été désormais rattrapé par Cournon-Terral qui est la grosse équipe de la salle. Et donc ça fait toute une série de palmarès. Donc c'est un petit peu comme, je dirais, on est sur RMC Info, ça dépend d'où on regarde et on peut voir des champions à peu près partout. Mais en tout cas, les titres de champion restent clairement héroletés dans le milieu du tambourin. Alors la première question, c'est pourquoi le tambourin s'est développé plutôt à l'est du département, et c'est vrai que la partie ouest du département, donc l'arrière-pays, etc., n'a quasiment pas de club. Alors le tambourin va à peu près jusqu'à Florensac, Pézenas, donc Pézenas qui accueille encore du tambourin mais qui n'a plus de club, Castelnau de Gers, etc. Donc il y a deux aspects à celui-ci, c'est qu'apparemment, historiquement, c'était un allemand qui s'est fait le long de la vallée de l'Hérault. Donc on suit un petit peu ce cheminement-là. Et l'autre cheminement, c'est plus un côté sportif, pas historique. Si on met en parallèle le développement du handball et du basketball, dans l'Hérault, on retrouve à peu près la même césure. Alors jusqu'à Béziers, il y a des clubs. Et ensuite, tout ce qui est l'arrière-pays, la partie ouest du département, y compris pour le handball et le basketball, ne sont pas des zones où il y a des clubs. Voilà. L'une des raisons étant que les gens qui pratiquent ces disciplines, et qui sont plus connus, plus célèbres et plus développés au niveau national et international, vont souvent pratiquer de l'autre côté de la frontière, entre guillemets. Ils vont pratiquer dans des clubs qui sont du côté de l'Aude ou du département limitrophe. Et donc, cette césure, elle n'est pas uniquement typique du tambourin. Elle fait partie quand même de l'avènement du sport en général dans l'Hérault. Mais c'est vrai que la césure, c'est tout le temps fait entre Pézenas-Béziers, c'est un peu la limite du sport tambourin dans le département de l'Hérault. Et Philippe a quelque chose à rajouter ?
Oui, dans chaque région, dans chaque département, à l'intérieur de chaque aire culturelle, il y a des sous-aires. Et c'est-à-dire des aires culturelles qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et on en trouve en général deux par département. Par exemple, le nord de l'Aveyron, c'est pas tout à fait la même situation que le sud de l'Aveyron. L'Ardèche aussi, l'Ardèche à l'huile et l'Ardèche au beurre. Et dans l'Hérault, il y a effectivement une césure est-ouest qu'on retrouve dans l'ancien dialecte occitan, qui, bien sûr, les deux dialectes se comprenaient parfaitement, j'en ai connu, mais il y avait des légères différences qui distinguaient l'ouest et l'est. Il y a aussi une différence au niveau instrumentarium traditionnel. C'est-à-dire l'air du hautbois languedocien, c'est plutôt l'est. Et l'air du fifre et du violon, plutôt l'ouest. Donc on retrouve bizarrement ce genre de coupure culturelle qu'on voit à travers le sport, les instruments traditionnels et les dialectes, c'est-à-dire les manières de parler, d'une manière assez mystérieuse, mais dont les origines sont peut-être très lointaines aux mentalités anciennes des gens qui ont peuplé les... ces régions. Et on retrouve ces césures un petit peu presque dans chaque département.
Avec escoutat la première partie de nos conférences de Christophe Granier et Jean-Guillaume Brouquette à préparos d'au sport tambourin. Fougat registrat le 24 d'abrial des 12 000 d'Ezenor à la Gazette Café à Montpellier.